confidentiel. RTL. Ophélie Meunier.
Raphaël Baquet, Samuel Blumenfeld, bonjour. Merci à tous les deux d'être mes invités aujourd'hui dans Confidentiel. Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, auteur. Samuel Blumenfeld, vous êtes journaliste au Monde Magazine, critique cinéma et auteur également. Vous publiez ensemble chez Albin Michel une affaire très française, une enquête inédite et explosive sur Gérard Depardieu. Depardieu est en photo sur la couverture, mais son nom ne figure pas dans le titre. Une affaire très française. Pourquoi ? Elle dépasse largement le cadre du cinéma, cette affaire ?
Oui, on le reconnaît immédiatement, à vrai dire. Il a un visage que la France entière connaît, et d'ailleurs même bien au-delà de nos frontières, puisque c'est l'acteur français le plus connu à l'étranger aussi. Ouais. Il a peuplé nos mémoires depuis plus de 40 ans.
Et puis, cette affaire, en fait, dépasse d'autant plus facilement le cadre du cinéma que, de facto, à partir du milieu des années 1990, Gérard Depardieu a mis le cinéma de côté pour s'occuper de ses affaires, de son business, comme il se plaisait à le dire. Et puis son business l'a amené très vite, naturellement, à fréquenter tous les dictateurs de la planète, de Fidel Castro à Vladimir Poutine.
Et
donc, il s'est lui-même placé sur une orbite qui va bien au-delà du cinéma. Et il s'est rapproché très près de ce qu'il imaginait être un soleil, mais ce soleil est noir.
Il lui a brûlé les ailes. Je rappelle que votre enquête a commencé par une série d'été dans Le Monde, 6 épisodes que vous avez publiés en juillet 2023. La série s'appelle Le cas Depardieu, si nos auditeurs veulent la découvrir. Donc en 9 mois, on est passé d'une affaire sur l'acteur Depardieu à une affaire sociétale. Vous dites, page 8, quelques mois ont suffi pour anéantir plus de 50 ans de carrière. Quelques mois, donc c'est violent. Il ne se relèvera jamais, Depardieu ?
Artistiquement, non. Il se relèvera jamais, je suis formel là-dessus, tout simplement parce qu'aucun décideur, aucun diffuseur en France n'acceptera de mettre le moindre euro dans un film où figure Gérard Depardieu. C'est clair, certains le disent on, donc au micro, d'autres préfèrent être, sont plus réservés ou plutôt ne le disent off, mais le résultat est le même, personne, plus personne ne financera un projet avec Gérard Depardieu. On va se dire, il y a peut-être le monde est vaste, surtout celui de Gérard Depardieu, puisqu'il vit dans un autre monde avec différents passeports. Mais on va dire que bon, les autres pays fréquentés par Gérard Depardieu, Dubaï, Cuba, la Russie bien évidemment, ne sont peut-être pas propices à une carrière cinématographique.
Donc,
c'est fini.
Artistiquement,
voilà, c'est fini.
Très ouvertement, c'est fini. Raphaël Baquet, il s'en relèvera pas.
Non, parce que jusque-là, il était celui sur le nom duquel on montait des projets et des films. Il était, au contraire, un pilier même de l'industrie cinématographique. Et c'est vrai que le scandale l'a rattrapé. Alors même qu'à vrai dire, ça fait longtemps qu'on sait, qu'on connaît ses dérives, qu'on connaît ses excès, qu'on connaît ses transgressions. Mais jusque-là, ça n'avait pas fait scandale. Et tout d'un coup, le scandale a explosé. Et l'a fait tomber dans une sorte de gouffre dont il ne peut pas sortir, effectivement.
Pour comprendre le cas de Depardieu, il faut évidemment redonner quelques éléments clés de sa carrière qu'on donne dans notre récit et que vous reprenez, bien sûr, dans votre livre. En vrac, 2-3 phrases que j'ai notées, un peu clés. Page 9, vous dites « Tout le cinéma français a bouffé grâce à lui ». Ça dit quelque chose. Et puis j'aime bien aussi le mot « bouffe ». Il a une audace folle, par exemple le rôle de Jean-Claude dans Les Valseuses, il est allé le chercher avec les dents. Vous racontez aussi que sur les tournages, et ça je ne savais pas, c'est surprenant, c'est un juge de paix. Il n'aime pas le conflit. Parlez-moi de ça. Le Depardieu, c'est aussi un psy de tournage un peu ?
Il peut aussi être un très bon camarade. Ouais. Et contrairement aux stars de son envergure, il n'a jamais été méprisant, distant. Il y a des milliers d'acteurs dont on vous racontera le mépris qu'ils ont pour les autres. Ils s'enferment dans leur loge, ils n'en sortent que pour faire leur prise, ils aident à peine leurs partenaires. C'est tout le contraire de Depardieu. Au contraire, c'est vraiment un bon compagnon, attentif aux autres, attentif à régler le problème du machinot, la difficulté du fils de l'électricien du plateau. Donc, il est vraiment bon camarade, mais il est aussi au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il est aussi transgressif et tellement à son aise qu'il impose ce qu'il est. Son appétit, sa boulimie, son ivresse, très souvent, car l'alcool joue un très grand rôle, on le verra. Et puis parfois, effectivement, ces attouchements sur les femmes, et surtout les femmes qui sont les plus précaires dans le cinéma, et elles sont nombreuses.
C'est important cette notion de bon camarade, Samuel Blumenfeld, pour comprendre aussi le pourquoi des excuses.
Absolument, c'est essentiel. Parce que, bien sur un plateau, Gérard Depardieu s'est rapporté régulièrement par plein de monde. Il est absolument formidable. C'est formidable, il a un comportement très inhabituel. Or, par son empathie, c'est, oui, capable de porter avec les techniciens les radio-travelling. Jamais une star ne fait ça. Et donc, de ce point de vue, Gérard Depardieu n'est pas une star comme les autres. Simplement, dans ce fonctionnement qui est celui d'un parrain, parce qu'en fait, Gérard Depardieu gère presque tous les aspects du tournage. Il y a juste la réalisation dont il ne s'occupe pas. Et encore, ça dépend du réalisateur. Mais simplement, dans ce fonctionnement de parrain, il faut, pour Gérard Depardieu, toujours un intégrateur négatif dans l'équipe. Vous voyez, un sujet de plaisanterie avec lequel tout le monde pourra, voudra, ou alors se plaira ou cédera à se gausser de cette personne. Ça peut être comme ça, ça peut être un homme, et la plupart du temps, c'est une femme. Et la plupart du temps, ce n'est pas n'importe quelle femme. En fait, c'est une femme que l'on dit dispensable. Vous voyez, une machiniste, une costumière, une ensemblière. Ces individus auxquels on ne fait pas attention. Et malheureusement, Gérard Depardieu s'est accordé, octroyé, un imaginaire droit de cuissage. Et donc, soudain, en fait, le parrain, très sympathique, en fait, très aimé de la majorité, en fait, se révèle, comme tous les parrains, assez trouble. C'est-à-dire que régulièrement, il formule des offres que l'on ne peut pas refuser. Et donc, auxquelles sont contraintes de malheureuses femmes. Et ça ne date pas d'hier, hein, en fait. Ça fait des années et des années.
Très vite et très tôt, je rebondis sur ça, ça fait des années et des années. Très vite et très tôt, la vie, la vraie vie de Depardieu devient en fait son cinéma. Le mélange, les deux, il n'y a plus de frontière entre les deux. Et tout ce qu'il fait finalement au cinéma est sa vie, et tout ce qu'il est dans la vie, il le fait au cinéma.
Oui, oui, parce que déjà, il faut bien comprendre qu'un plateau de cinéma, une nouvelle entreprise que l'on construit à chaque fois. Et puis, vous savez, vous mettez en fait un groupe humain qui va évoluer un mois, deux mois, trois mois, parfois plus, ensemble. Donc, c'est une nouvelle aventure humaine, avec des relations qui se définissent et se redéfinissent à chaque instant. Donc, effectivement, c'est la vie de Gérard Depardieu. Et c'est toujours ainsi qu'il s'est projeté. Mais il ne faut pas oublier que dans ce monde-là, dans cette nouvelle histoire qui est à chaque fois un tournage, Gérard Depardieu est la star. Et comme vous l'avez noté tout à l'heure, je dis puisqu'effectivement le cinéma français croûtait grâce à Gérard Depardieu, en partie dans les années 80, où véritablement l'industrie du cinéma français repose quasiment sur ses seules épaules. Vous avez Jean-Paul Belmondo jusqu'au mi-temps des années 80, vous avez un petit peu Alain Delon, mais fondamentalement, durant toute cette décennie, c'est Gérard Depardieu. Ça veut dire qu'il a un pouvoir considérable, pouvoir dont il est conscient. Et comme un tournage, en fait, ressemble à un ordre féodal. C'est très, très hiérarchisé. Et donc, au sommet de cette pyramide, vous avez un roi, vous avez un monarque tout-puissant. Et ce monarque tout-puissant, c'est la star. Et la star, dans les années 80, avant déjà et au-delà, c'est Gérard Depardieu.
Et quand il appelle d'ailleurs, parfois il dit « Allô, c'est Dieu ».
C'est Dieu.
Il a ce nom évidemment qui prête à confusion, ouais. dont il a beaucoup joué, ouais. Hein, bien entendu. Mais c'est vrai que très vite, il a été Dieu sur les tournages. Ouais. Très vite, il donnait même des conseils aux réalisateurs.
Parce qu'on parle de ça, il a moins de 30 ans. Hein.
Bien sûr, il réussit, il perce d'une façon incroyable avec les valseuses, d'une façon d'autant plus incroyable qu'il ne ressemble pas aux autres acteurs de cinéma. Il n'a pas la même origine sociale, il a une origine prolétaire.
Gamin de Châteauroux, on le raconte.
Gamin de Châteauroux, il est voyou, vous l'avez raconté, un petit voyou de Châteauroux. Ouais. Il ne ressemble pas du tout aux autres acteurs. Dans Les Valseuses, Patrick Devers, c'est un enfant de la balle, ses parents sont acteurs. Bertrand Blier, c'est le fils de Bernard Blier. Ouais. Donc, et lui, Depardieu, pas du tout. Il n'a pas ces codes-là. Or, il va percer extraordinairement, alors même qu'il n'a pas le physique non plus du jeune premier.
Ni l'addiction.
Ni l'addiction, il bégaye. Donc, il n'est ni beau, comme Alain Delon, ni un enfant d'acteur comme la plupart des autres, ni même, il n'a même pas les codes de la bourgeoisie et de la culture. Il s'est entièrement fait tout seul.
Il est vraiment
Ça lui donne une espèce de folie et de sentiment de toute puissance, puisqu'effectivement, il est devenu très vite le premier, le plus grand acteur dès les années 80, hein, et en s'étant construit entièrement seul et sur sa propre volonté.
Avant d'ouvrir le chapitre important des femmes, je voudrais parler de Maurice Pialat. La présence de Maurice Pialat dans la vie de Depardieu, avec lequel il a joué notamment Sous le soleil de Satan, a, vous l'expliquez dans le livre, vraiment contribué à démarrer, de révéler sa monstruosité. Parlez-moi de la relation Pialat-Depardieu qui, il me semble, est fondamentale.
C'est une relation qui est extrêmement fructueuse. Hein. N'oublions pas une chose, en fait, c'est que bien souvent, j'irais presque toujours, une star de cinéma avance en couple. Oui. Elle avance en couple avec un réalisateur. Souvent, plus rarement une réalisatrice, mais je veux dire, véritablement, pour faire une grande carrière, il faut un couple. Comme dans la vie d'ailleurs, bien souvent. Donc véritablement, c'est une relation très très fructueuse qui produit plusieurs grands films, je veux dire Loulou, Police, Sous le soleil de Satan, véritablement ce sont des films de très grande valeur. La rencontre de ces deux hommes est très heureuse, mais n'oublions pas que nous trouvons devant deux caractériels, deux grands caractériels, parce que il y a le cas Depardieu, mais il y a le cas Maurice Pialat. Et donc, Maurice Pialat est quelqu'un qui ne conçoit ses relations avec son équipe de tournage que sur un plan conflictuel. Et en particulier, les comédiens. Presque tous les comédiens des films de Maurice Pialat sont concassés. Et j'irais même, y compris Depardieu, sur Loulou, leur premier film ensemble, qui est une expérience difficile pour Depardieu. Sauf qu'à partir de leur deuxième film, donc à partir de Police, en fait, Gérard Depardieu devient l'auxiliaire de Maurice Pialat. Donc vous avez l'homme derrière la caméra, qui n'est pas serein, qui n'est absolument pas bienveillant, et vous avez devant la caméra celui, sa star, qui va devenir son bras armé. Et cela se concrétise et s'incarne de manière particulièrement violente et absolument choquante. Avec le recul, avec le traitement de Sophie Marceau sur Loulou. C'est-à-dire que nous parlons d'une jeune actrice, qui était à l'époque l'actrice de la Boom.
Sur Police, vous voulez dire.
Sur Police, absolument. Oui. Et donc, nous parlons d'une jeune actrice qui est giflée à plusieurs reprises. Oui. Elle l'est dans le film, mais elle est véritablement giflée. Et comme nous sommes au cinéma, on fait plusieurs prises.
Plusieurs prises.
Et donc, ça veut donc dire plusieurs baffes. Bon, comme Sophie Marceau a des scènes au lit avec Gérard Depardieu, eh bien, il ne s'agit pas de simplement mimer le fait de faire l'amour. Gérard Depardieu, il va très gaiement. Et nous avons affaire à une jeune fille qui a à peine 18 ans, qui ne sait pas comment se débattouiller de cela. Parce qu'elle est face à la plus grande star française, et elle a derrière elle l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma français. Donc c'est très difficile, et elle a le courage. L'énorme courage de dire après le tournage, ce n'est pas possible, ce que j'ai subi est inadmissible.
Et on se moque d'elle d'ailleurs à ce moment-là.
Mais on se moque d'elle, elle est traînée dans la boue. Maurice Pialat peut la traiter de grosse conne. Gérard Depardieu y va, tout cela est dit à la radio, tout cela est dit en direct à la télévision sur Canal+, et tout le monde applaudit parce que les artistes, ce sont Gérard Depardieu et Maurice Pialat, et la petite conne, c'est Sophie Marceau. Quand on regarde cela aujourd'hui, on se dit, fort heureusement, nous avons changé d'époque, il était temps.
Mais parce que s'est installée à cette époque-là la confusion entre la vérité et la force artistique. Et on considère qu'un tournage violent, c'est du cinéma vérité, et donc c'est du cinéma d'auteur de qualité.
Et donc c'est du bon cinéma.
Or, Maurice Pialat est une sorte de tyran sur les tournages. Il est d'une violence insupportable, tout à fait inadmissible, et qui d'ailleurs ne le rend pas plus talentueux que s'il se comportait bien. Simplement, il y a une confusion, et aux yeux de Depardieu, cette confusion va s'installer. C'est-à-dire que quelqu'un qui transgresse, qui ose, y compris malmener les comédiens, c'est forcément un bon metteur en scène. Et lui-même, il va se permettre à peu près toutes les privautés.
Et finalement, ça va l'encourager à révéler l'ogre et le monstre qu'il y a en lui depuis l'enfance, il me semble. Les femmes, elles sont donc au cœur de cette affaire Depardieu. C'est très clair dans le livre, hein, il y a vraiment deux types de femmes autour de Depardieu, les femmes fortes, qui réussissent à le dominer, et notamment celles avec lesquelles il a vécu, qui sont toutes, vous l'expliquez, issues de la bourgeoisie intellectuelle. Toutes ces femmes le défendront quand les accusations vont tomber. Elles disent non, je n'ai pas connu cet homme-là. Non, Gérard n'est pas un violeur. Pourquoi elles le font? Et y a-t-il donc vraiment deux Depardieu?
Oui, moi je crois qu'elles ne mentent pas du tout quand elles disent ça. Elles le défendent sincèrement, parce que effectivement, avec ces femmes-là, avec les femmes qui sont ses équivalents, soit parce qu'elles sont de grandes stars du cinéma elles-mêmes, comme Carole Bouquet, soit parce qu'elles sont fortes, elles ont du caractère, comme Catherine Deneuve, Fanny Ardant, qui ont beaucoup tourné avec Gérard Depardieu et qui l'ont beaucoup défendu. Avec elles, il est tout le contraire, il est délicat, il est fin, il est cultivé, il est attentif. Il est un merveilleux Gérard Depardieu, si vous voulez. Il est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, la finesse incarnée. Mais avec les autres femmes, celles qui n'ont pas de pouvoir, là, au contraire, il les traite comme des objets, comme parfois des animaux. Et il se permet de glisser la main dans leur culotte alors qu'elles sont en train de le maquiller. C'est insupportable. Personne ne ferait ça. Or, il a vraiment deux visages. Le Gérard Depardieu, délicat et merveilleux, et le Gérard Depardieu, obscène et brutal. Et le problème, c'est que c'est le même homme, simplement avec deux facettes très différentes et même contradictoires.
Samuel Blumenfeld.
Moi, je rajouterais que ces femmes qui justement défendent Gérard Depardieu, donc ces grandes actrices, Fanny Ardant, Nathalie Baye, Catherine Deneuve, hein, effectivement, elles vous décrivent un acteur merveilleux, sans doute un être humain impeccable, elles n'ont que du bien à dire de lui. Mais simplement, l'autre réalité des tournages, c'est justement ces femmes qui ne comptent pas. Je parle dans la hiérarchie du cinéma.
Ces
petites mains ont été agressées. Elles ont été agressées. Moi, je dirais que la première histoire d'agression qui a été rendue publique, c'est sur le tournage de Danton. Donc, nous sommes au tout début des années 1980. C'est un troisième rôle qui est agressé. Mais je veux dire, le récit fait par cette femme, qui d'ailleurs s'est depuis suicidée. C'est pas lié, je pense pas que ce soit lié à cela. Mais enfin bon, voilà, le récit de cette femme est insupportable. On est obligé de la croire parce qu'on n'invente pas ces détails-là.
Ouais, ouais.
Le récit est insupportable et il ressemble tellement à ce qui sera raconté par la suite. Or, c'est une réalité, un principe du cinéma. C'est qu'en fait, les stars de cinéma, les vedettes que sont Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Nathalie Baye, Catherine Deneuve, ne regardent pas ces gens-là. Ce monde-là n'existe pas à leurs yeux. Il ne surgit jamais devant leur regard. Donc en fait, on a l'impression que tout ce petit monde, ces femmes-là, découvrent que sur un plateau, en fait, il y a plus de monde que cela. Et il y a donc plusieurs réalités. Il serait temps quand même qu'elles s'y intéressent.
C'est d'autant plus étonnant qu'elle ne l'ait pas vu que Gérard Depardieu ne se cache jamais.
Jamais.
Ce qui nous a surpris, c'est ça. C'est qu'il fait toujours tout devant un public. Il a besoin d'un public. Il a besoin d'une caméra sur lui. Et ça ne le gêne pas, au contraire.
D'ailleurs, ça renforce vous dites même regarder les films. Regarder les films ne l'intéresse pas vraiment. Tout ce qu'il veut, lui, c'est jouer.
Oui.
Il a besoin d'être vu, de se montrer en permanence.
Et il fait toujours le spectacle. Et il fait rire aux dépens de ces femmes qui ne sont rien, justement, sur la hiérarchie du tournage. Il fait rire l'autre public, celui qui compte, celui des réalisateurs, celui des autres acteurs. Et ça, c'est le Gérard Depardieu le moins recommandable, le moins agréable, justement, parce qu'il sait bien que là, c'est un abus de pouvoir manifeste.
Vous posez la question, est-ce que on l'excuse depuis les années 80 parce que c'est une époque ou parce que ce qu'on est en train d'expliquer aussi, toute puissance de Depardieu, à qui la faute? Un peu des deux?
Moi je crois que c'est à la fois l'époque et puis c'est lui. Parce que
les deux.
Non seulement il a du pouvoir, comme on vient de le dire, puisque effectivement sur son nom se montent des projets, mais il suscite l'admiration aussi. Et donc ça, évidemment, quand autour de lui, les gens admirent son génie du jeu, qui est réel, on est prêt à lui passer beaucoup de choses au nom de ce génie, y compris son aspect le plus obscène et le plus dégoûtant, en fait. Ce qui est le moins agréable chez lui, eh bien, il est gommé par son extraordinaire talent.
Je dirais aussi que dans la petite entreprise qui est un tournage de cinéma, le destin économique de cette petite entreprise dépend, surtout dans les années 80, et enfin, je dirais jusqu'au milieu des années 90, clairement, du seul Gérard Depardieu. Toute une équipe, tout un système de distribution, d'exploitation, en fait, repose sur les épaules d'un seul homme. Est-ce que vous avez envie qu'il disparaisse pour ce qui vous apparaît comme quelques actes répréhensibles ? Non, c'est comme, vous voyez, un général qui vous assure de gagner la bataille, mais simplement, bon, parfois, le général a tendance à envoyer un, deux ou trois hommes au casse-pipe dans des missions suicides qui ne servent à rien. On ferme les yeux. Voilà ce qu'a fait le cinéma français, à mon avis, pas seulement français.
Je pense que ce que vous dites est un élément de réponse pour ma prochaine question autour de ce moment assez clé aussi aux Oscars. Donc, il est Cyrano, désormais. Et là, ressort une interview qu'il a donnée à l'équivalent des cahiers du cinéma américain, où il est question de ce viol auquel il aurait participé quand il était enfant. Les propos ressortent. Hollywood est choqué. Évidemment, j'ai envie de dire, en France, c'est très intéressant. On s'y intéresse pas. C'est carrément, on le défend. Ah. On le défend. Et c'est Jack Lang, c'est Jacques Attali, c'est Jacques Toubon. Et on se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas s'attaquer à Gérard Depardieu, c'est pas vrai. Enfin, on ferme complètement les yeux. Mais que fallait-il pour qu'on ouvre les yeux ? Que fallait-il ?
Parce qu'à l'époque, Gérard Depardieu, c'est la France. Il a été Danton, notre héros de la Révolution. Il a été Cyrano, bien sûr. Il a été Rodin, notre grand sculpteur. Obélix, donc notre personnage de bande dessinée le plus connu. Il est la France. Il est complètement l'identité de notre pays. Toutes les générations ont un Depardieu qu'elles aiment, quel qu'il soit, que ce soit le Depardieu de comédie avec Pierre Richard ou le Depardieu, au contraire, romantique de la femme d'à côté.
Et ça se comprend.
Bien sûr, parce qu'il est
grand.
Et effectivement, c'est un immense acteur. Le problème, c'est qu'effectivement, les Américains n'ont pas cette idée-là. Ouais. Ils ont vu Cyrano, ils ont vu Green Card. Et puis, pour les plus cultivés d'entre eux, ils ont vu éventuellement un Truffaut. Mmh. Enfin, ils n'ont pas cette filmographie extraordinaire de Gérard Depardieu.
Donc, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de lucidité, d'objectivité.
Et puis aussi, ils prennent au sérieux ce que dit Depardieu. Or, les Français... ils ont l'idée que Depardieu, il exagère toujours. Et peut-être d'ailleurs, est-ce le cas Car il a beaucoup mis en scène son passé de voyou.
Peut-être un peu baratiné parfois.
Oui, parfois il exagère. C'est très étonnant. Aucun d'entre nous ne voudrait se faire passer pour un voyou. Lui, au contraire, il a voulu absolument construire cette image de voyou. Il a affirmé qu'il avait fait de la prison. On a cherché, il n'a jamais fait de prison.
On n'a pas la preuve en tout cas.
Mais non. Ouais. Donc, et là, il a raconté dans une petite interview qu'il avait participé à des tournantes, à des viols collectifs à l'âge de 9 ans. Ça paraît quand même assez peu probable. Mais ce n'est pas grave. Il a construit son personnage là-dessus. Et tout d'un coup, ce personnage de voyou dont il tirait, qui était un fait de gloire pour lui, ça devient au contraire un obstacle à sa carrière américaine. Et effectivement, sa carrière américaine va être stoppée net. À cause de ça.
Et faut-il le préciser, mais évidemment, l'Oscar lui échappe à ce moment-là, Samuel Blumenfeld.
Il est devenu assez rapidement prisonnier, à la fois de sa réalité, de ses blagues, de son comportement et de la mythologie qu'il a construite.
Prisonnier en même temps.
Ah, prisonnier, oui. Prisonnier. Donc, si vous voulez, il a très longtemps pensé que ses actes et ses paroles ne prêtait pas à conséquence. Il y a d'autant plus facilement souscrit qu'en fait, qu'il y était encouragé en France. Et en fait, il était encouragé en France, pas seulement par son public, mais aussi par des hommes politiques, y compris au plus haut sommet de l'État, parce qu'il incarnait la France.
Et de décision. Ouais.
Il est effectivement, je dis sa propre victime, mais enfin bon, une victime tout à fait responsable, mais tout le système l'a poussé en fait à aller dans le mur.
Oui. Autre sujet important et qui explique le cas de Depardieu, c'est l'alcool. L'alcool est présent dans votre livre, hein, du début à la fin, comme il a été présent dans la vie de Depardieu, du début à la fin. Juste, je cite cette phrase, page 46, c'est un authentique angoissé qui masque ses peurs sous les rires, boit plus que de raison et se drogue aussi. Et vous racontez par exemple qu'il vide une bouteille entière de whisky après une scène compliquée pour décompresser. Il reproche à Alain Delon de ne pas savoir boire et donc ça ne fait pas de lui un vrai acteur. L'alcool a été son principal ennemi à Depardieu, Raphaël Baquet.
Oui, alors déjà son père buvait. Donc il a toujours eu comme modèle un homme ivre. Et lui-même, il aime à la fois ce qui est le meilleur de ce qu'est la France, c'est-à-dire il aime il aime la cuisine, il l'a fait lui-même très bien, il aime le vin, il en cultive, il a des vignobles. Le problème, c'est qu'il fait tout avec excès. Et donc, il n'y a pas seulement avec les femmes qu'il pose un problème sur les tournages, il y a justement avec l'alcool. Très souvent, on nous a raconté des scènes où il était ivre-mort, où tout le monde attendait qu'il dessoule, où on faisait venir un médecin qui le mettait sous perfusion de façon à le faire dessouler plus vite. On aurait accepté ça de personne d'autre. C'est absolument impossible. Or, évidemment, cette ivresse quasi constante, non seulement ça le détruit physiquement, mais ça le désinhibe. Et ça, c'est mortel. C'est-à-dire qu'il n'a plus le contrôle de lui-même. C'est aussi une bonne excuse pour abuser et pour se donner en spectacle. Et au fond, on prend l'habitude de voir un Depardieu qui est toujours un peu à la dérive, toujours d'entre deux eaux. Hein. Toujours un Depardieu qui n'est jamais dans un état normal.
Normal et sobre. Mmh. Samuel Blumenfeld, alcool excessif, pire ennemi de Depardieu.
L'un des pires ennemis, hein, parce que en fait, il en a beaucoup, hein, mais on va dire que c'est l'un des principaux. Vous voyez, l'alcool est une réalité dès le départ, quoi, puisque l'enfant de Gérard Depardieu, c'est déjà l'assommoir. Donc ça a toujours été là, mais que voulez-vous ? Il le supportait, le tolérait mieux que n'importe quel individu, parce que c'est quelqu'un qui a une constitution absolument hors du commun.
Ouais.
Si d'ailleurs il avait une vie saine, enfin je veux dire, au sens où au moins il ne buvait pas, je veux dire, nous aurions affaire à un acteur qui pourrait faire une carrière au-delà de...
Exceptionnel.
Voilà, il pourrait travailler au-delà de 100 ans, hein, après, clairement. Et donc, cet alcool était une réalité, il pouvait apparaître déplaisant, mais il lui permettait de fonctionner pour une raison simple, c'est un surdoué. Donc en fait, lui entrait dans son rôle comme ça, en un claquement de doigts, il n'y a pas besoin de se préparer, c'est vraiment pas la méthode de l'acteur studio chez lui. Mmh. Il arrivait devant la caméra, il récitait son texte et c'était parfait. Donc c'était un miracle permanent. Sauf que votre corps, Depardieu se croyait immortel, il ne l'est pas. Il ne l'est pas, ou du moins il ne l'est plus. Et donc, peu à peu, cette histoire d'alcool est devenu un problème majeur sur les plateaux. Une chose d'ailleurs qu'on a mis du temps, Raphaël et moi, à voir se dessiner ce phénomène.
Ah, c'est vrai, dans vos rencontres.
Dans les témoignages, parce que les gens parlent difficilement, et puis désormais ils s'ouvrent davantage depuis les nombreux déboires de Gérard Depardieu. Et en fait.
Et puis ils parlent, j'imagine, prioritairement de son rapport avec les femmes. Avant de parler de l'alcool.
Ouais, ou du moins, ils sont plus gênés pour raconter leurs propres avanies avec Depardieu. Et la réalité aujourd'hui, c'est que Gérard Depardieu, sur un plateau, bien, à partir de 15 heures, vous ne pouvez plus rien en faire. Il est ivre. Donc c'est un problème. Tout d'un coup, effectivement, la petite entreprise qui est un tournage ne fonctionne plus. Ça, ce qui explique aussi qu'il était lâché. Ce n'est plus un acteur qui fonctionne. Donc c'est un souci. Et puis son comportement en dehors des plateaux, par exemple au Festival de Cannes, le Festival de Cannes ne veut plus le voir depuis des années. On ne dira jamais on, mais la réalité c'est qu'on ne veut plus l'inviter parce que son comportement est trop gênant. Et cela, c'est l'alcool. Effectivement, l'alcool l'a rendu infréquentable et en fait de facto inemployable.
Avec des expériences que vous racontez folles, hein, enfin, c'est dans le livre autour de l'alcool et de situations qui sont à peine croyables, les descentes qu'il a.
Mais en plus, encore une fois, il l'a toujours fait en public et nous tous, nous l'avons vu. Hein, lorsque sa fille Julie a un César, il monte sur scène pour lui gâcher son talent, mais il est ivre.
Ouais.
Lorsqu'il monte recevoir un prix pour Green Card aux États-Unis, il est ivre. On le voit à l'écran. On le voit plusieurs fois répondre à des interviews où il est ivre. Donc, nous tous, nous l'avons vu. Et finalement,
On a passé ça parce qu'il était une espèce d'extraordinaire monstre, y compris physique, et qu'on regardait le spectacle sous nos yeux.
À ce stade de l'interview, j'ai pas fini, mais j'ai vraiment envie de vous poser cette question. Tout ce qu'on se dit là et tout ce qu'on se raconte, est-ce qu'on est d'accord pour se dire que ce ne serait plus possible aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut confirmer que notre société n'accepterait plus un cas Depardieu aujourd'hui, en 2024 ?
D'abord, je dirais qu'il n'y a plus de star de cette dimension-là. Donc, encore une fois, vous ne pouvez pas séparer le pouvoir qui était celui de Depardieu du fait qu'on ait toléré, de la tolérance qu'on lui a accordée. C'est complètement lié. Aujourd'hui, je ne peux pas vous citer
plus sain, comme ça.
Ni un homme ni une femme qui soit une star de cette envergure.
De Depardieu.
Et donc, évidemment, on n'est plus... On est plus critique, on est moins tolérant, on passe moins sur les défauts de tel ou tel. Depardieu, on a fermé les yeux, quand je dis un on collectif, parce que après tout, effectivement, tous les Français l'ont vu, avec plus ou moins d'acuité. Mais je crois que on lui a passé tout cela parce qu'on l'admirait, parce qu'il était le plus grand aussi dans des très grands rôles.
Donc non, ce ne serait plus possible en 2024, mais surtout lié au fait qu'on n'a plus une puissance pareille dans les mains d'un seul homme dans le cinéma.
Vous voyez, dans les années 80, il y a deux années, dans les années 80, je crois que c'est 81 ou 82 et 86, où Gérard Depardieu totalise plus de 10 millions d'entrées, avec 3 ou 4 films à chaque fois. C'est colossal. C'est colossal. C'est unique, en fait, dans l'histoire du cinéma français. Une star qui attire plus de 10 millions de spectateurs sur une seule année. Gabin n'a jamais fait cela, Alain Delon n'a jamais fait cela, Jean-Paul Belmondo n'a jamais fait ça. Donc autant vous dire que Gérard Depardieu se situe dans une ligue à part. Cela ne se reproduira plus jamais. Mais imaginons que cela se reproduise. Je ne peux pas vous garantir que ne s'installerait pas une loi du silence pour protéger en fait un acteur, ou une comédienne d'ailleurs, ou une actrice, qui serait une véritable machine à imprimer du cash. Moi, je ne peux pas vous le dire formellement.
Oui, c'est encore pas totalement sûr. Il y a ce sujet étonnant dans l'histoire de Depardieu qui aurait pu alerter, et pourtant non, c'est sa fascination, son contact avec les dictateurs. Le cas russe, évidemment, alors Depardieu était une prise de guerre pour Poutine, il lui offre la nationalité russe. Depardieu plaide d'ailleurs la russophobie au moment de l'invasion de l'Ukraine. Il est quoi Depardieu à ce moment-là, il y a deux ans, au moment où la Russie envahit l'Ukraine? Il est aveuglé, il est bête, enfin, pardon, mais juste pour comprendre, comment il peut faire ça?
C'est le premier accro, à vrai dire, l'invasion de l'Ukraine.
Ouais.
Parce que tout d'un coup,
le début de la fin.
Voilà, tout d'un coup, alors qu'on avait fermé les yeux là-dessus, tout d'un coup, il va y avoir des manifestations, alors qu'il est en train de donner une série de concerts où il chante Barbara, il est accueilli par des manifestants au nom de l'Ukraine. Mais jusque-là... Pas du tout. Ça avait choqué quand même qu'il brandisse un passeport russe en 2013. Mais c'était quand même
passé. C'était du Depardieu, quoi.
Voilà, c'était Depardieu, c'est Gérard, c'est pas très grave. Et puis après tout, on savait pas très bien ce qu'il faisait en Russie. La réalité, c'est que justement, on s'est penché dessus. Il fait des affaires.
Il fait des affaires.
Ouais. Il fait du soutien électoral aussi.
Des campagnes. Il soutient Poutine.
Il soutient toute une série de tyrans. Poutine, bien sûr, pas seulement.
La Tchétchénie, la Biélorussie, Cuba, la Slovaquie, l'Azerbaïdjan. Il est allé dans plein de pays où, est installé un dictateur.
Rajoutons Cuba, le Venezuela. Il aime bien aussi un petit peu l'Amérique du Sud.
Tout gauche, il s'en fiche.
Voilà.
Il n'a pas de ligne politique.
Mais il dit qu'il a une fascination pour l'intelligence des dictateurs. Alors, C'est quoi, en fait ?
C'est une chose, en fait, assez simple, même s'il nous a fallu du temps pour saisir ce mécanisme.
C'est pas simple à saisir.
Les vedettes sont régulièrement attirées par les hommes de pouvoir.
Ouais.
Et d'ailleurs, de toute façon, vous voyez, vous prenez le cas du cinéma américain, les stars voisinent régulièrement avec Washington. Il n'y a pas de problème, c'est une tradition. Mais les stars voisines, en fait, avec un pouvoir à Washington, bah, qui va et qui vient, puisque nous sommes dans une démocratie. Donc, tout ce petit monde-là est en CDD. Il est élu, et puis, un beau jour, tous les 4 ans, bah, il est battu.
Oui.
Ça n'a guère intéressé Gérard Depardieu, ce pouvoir-là. Vous voyez, ce pouvoir qu'il perçoit comme faible, puisque ces gens-là, quand même, en fait, acceptent de partir.
Beaucoup trop éphémère.
Or, ce que Gérard Depardieu aime, ce qui le fascine, ce sont les chefs. Mm-hmm. Parce que les chefs, ils arrivent et ils restent. Voilà. C'est cela qui fascine Gérard Depardieu. Et c'est hautement antipathique.
Mm. Oui, ce qu'il aime, c'est les monstres comme lui. Et donc, effectivement, ce sont bien souvent des tyrans, des dictatures. Ils ont la stabilité pour eux. Ils ont l'espèce de pouvoir et de stature non contestée, comme il l'a été, non contestée. Mmh. Donc ça, c'est très important. Et après, il a été utilisé. Parfois, il a fait preuve d'une naïveté incroyable.
Oui.
Incroyable. Mais il a été évidemment utilisé et il s'est laissé utiliser.
Mais même ça, c'est étonnant d'ailleurs.
Mais parce qu'on le reçoit comme un chef d'État. Oui. Quand il arrive en Russie ou en Tchétchénie, il est reçu comme un président. Donc, évidemment,
même peut-être
il y
mieux.
Succombe. Ah bah, même parfois mieux, effectivement. Donc, il y a succombé assez facilement. Oui. Et puis, il y a l'argent quand même. Parce que c'est aussi quelqu'un de vénal.
Oui,
donc,
vous l'évoquiez dès le début, hein, Samuel Blumenfeld. En fait, très vite, on est aussi face à un homme d'affaires.
Oui, il a fait des affaires. D'ailleurs, il n'est pas très bon en affaires, en vérité. Mais enfin, il en fait quand même. Hein. Mm. Il a vendu son vin, bien sûr. Il a tourné des quantités de publicités. Hein. Il tournait des publicités pour des plats cuisinés, pour des montres. Fier d'être russe, c'était le slogan hein, oui. pour Gérard Depardieu. Donc, il l'a fait sans arrêt. À Cuba, bien sûr, il l'a fait. Il n'était pas le seul à aller dans ces dictatures, parce que on le voit bien, aussi bien Fidel Castro que Vladimir Poutine ont aussi dragué des stars de Hollywood. Hein. Il y a une scène où Poutine chantait Fats Domino devant un parterre de stars américaines et de stars françaises, dont Gérard Depardieu. Mmh. Donc il n'était pas le seul. Mais il est resté le plus longtemps, si je puis dire.
Le plus fidèle.
Jusqu'au dernier moment, ouais. Le plus fidèle, le plus inconscient de l'effet désastreux que ça produisait.
Jusqu'à finalement cette bascule, hein, donc on en parlait au moment de l'invasion de l'Ukraine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette bascule, elle a lieu sur un sujet qui n'est pas celui de l'alcool, qui n'est pas celui d'une agression, qui ne touche pas à une femme. Mmh. On est sur un fait société.
Il a été rattrapé par le réel. Mmh. Il a été rattrapé par l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que soudain, ce qui pouvait lui apparaître comme folklore, mascarade, ou pouvait bomber le torse en fréquentant tous ses amis dictateurs, soudain on s'est rendu compte que les dictateurs, ce ne sont pas que des personnages de bande dessinée. Il leur arrive de faire la guerre. Et là, que découvrons-nous ? Bien évidemment, en février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'assassinat, le massacre de centaines, puis de milliers d'Ukrainiens, et Gérard Depardieu, qui, dans ce qui reste à ce jour, sa dernière interview, dans le mensuel d'extrême droite Élément, en mars 2022, alors que l'invasion de l'Ukraine est déjà advenue, eh bien Gérard Depardieu nous explique que l'Ukraine est russe depuis la Grande Catherine, et qu'il y a effectivement un danger pour la paix mondiale. Ce danger pour la paix mondiale s'appelle Joe Biden. Et en fait, soudain, à ce moment-là, parce que Gérard Depardieu, une fois encore, ne comprend rien à l'ordre du monde et aurait mieux fait de se taire, hein, et ne s'est jamais tu, eh bien, soudain, il est rattrapé, en fait, par ses propres avanies. C'est une histoire, somme toute, assez morale.
Oui, il a vite basculé, en fait. On l'a vu, d'ailleurs, on n'avait pas compris que c'était à ce point. Mais il a vite embrasser même toutes les thèses complotistes que font passer le pouvoir poutinien. Hein, oui. Donc, vraiment, il raconte n'importe quoi depuis longtemps.
Il y a l'exemple de l'épidémie de sida de 80 qui serait à l'œuvre du Pentagone, par
exactement.
Exemple. Qu'il ressort tel quel.
Il a embrassé des thèses complotistes qui sont vraiment directement issues du Kremlin.
Ouais.
Mais même, d'ailleurs, sur les dernières images, qui ont fait scandale et qui ont achevé de détourner le public qui jusqu'ici l'avait quand même aimé malgré tous ses excès. Mmh. Elles sont tournées en Corée du Nord.
Alors,
ces images de complément d'enquête.
Voyage
comme s'il avait vraiment achevé sa collection de dictateurs par la dictature la pire, celle de Corée du Nord, qui est le pays le plus fermé qui soit.
Le voyage donc avec Yann Moix, qui veut tourner son film Coréa, et donc qui arrive à convaincre Depardieu uniquement parce que ça va lui donner l'occasion d'aller en Corée du Nord, parce que sinon ce film, Depardieu, il n'a pas du tout envie de le faire, en fait.
Exactement.
Mais comme il peut aller au contact de Kim Jong-un, il y va, et là, ces images qui ont été diffusées dans Complément d'enquête sur France 2, qui ont, après ses propos sur l'invasion de l'Ukraine, ont continué d'achever finalement le mythe.
Oui, parce que cette fois,
c'était
la France entière a vu son obscénité ignoble. Il n'y a rien de rattrapable. Non. En plus, il fait ça devant, face à une jeune interprète ou à un guide qui, évidemment, ne peuvent rien dire, justement parce qu'ils vivent dans une dictature. Ça, c'est vraiment une double ignominie. Non seulement il est obscène, vulgaire, grossier, abusant de son pouvoir, mais en plus, il le fait face à des gens qui, justement, sont bâillonnés, symboliquement. Oui. Donc ça, c'est terrible pour lui.
Il y a une autre chose, c'est que ces images-là, ces fameuses images, qui ne sont pas dans le film
de
Yann Moix, mais bon, qui sont des images qui ont été tournées et qui ont été... des rushs. Gérard Depardieu est en fait filmé en flagrant délit d'existence. Et ce qui est effrayant, c'est que s'il est atroce là, en fait, il l'est tout le temps. C'est qu'en fait, il est pris là dans la force de l'habitude. Et en fait, ce qui est insupportable, c'est pas qu'il y ait un dérapage de Depardieu, c'est qu'en fait, qu'il n'y en ait pas. Il a toujours été comme ça, de tout temps et en tout lieu. C'est ça qui est terrible.
Depuis toujours.
Depuis presque toujours, on va dire au moins.
C'est la chute. C'est la chute de Depardieu. Vous dites, page 9 dans le livre, « Il est et restera un petit bout de l'histoire de France, Depardieu, toujours. » C'est pour ça que Emmanuel Macron, notre président de la République, s'en mêle quand il est invité sur le plateau de C'est à vous sur France 5 et dit « Depardieu rend, pas a rendu ». Depardieu rend fière la France. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président? Alors, je ne vais pas vous faire parler pour le président, mais selon vous, qu'est-ce qui se passe dans la tête du président pour qu'il dise ces mots à une heure de très grande écoute sur France Télévisions?
Bah d'abord, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Emmanuel Macron, ça fait longtemps qu'il admire Gérard Depardieu.
Ouais. Lui-même, grand cinéphile.
Il a fait du théâtre, c'est un grand cinéphile, ça fait longtemps qu'il l'admire.
Et a raison.
Et a raison, bien sûr. Et ça fait longtemps même qu'il essaye de rencontrer Depardieu. Mmh. Depardieu l'a toujours traité par le mépris. Parce que, bon, un président centriste, qui n'est pas de sa génération, ça ne l'intéresse pas.
Et puis qui ne va pas rester indéfiniment au pouvoir.
Ouais.
Énorme défaut.
Il a pourtant, auparavant, été à peu près avec tous les présidents de la République. Hein. Il a soutenu Mitterrand, il s'est fait décorer par Jacques Chirac, il est allé au meeting de Nicolas Sarkozy. Puis à partir de François Hollande, qu'il a détesté, là, il s'est détourné de la politique française. Donc, Emmanuel Macron, il ne le regarde pas. Mais quand arrive la diffusion de compléments d'enquête et de ces images de Corée du Nord, là, il fait monter au créneau ses proches et il appelle lui-même le président de la République.
Le président avant,
et donc le président, évidemment, bluffé par Gérard Depardieu et ayant mal compris que justement c'était terminé, que là c'était les images de trop, il réagit à contre-temps et il dit, il rend fier les Français, qui est une phrase impossible parce que justement il n'y a plus de fierté. Ouais. Il y en a eu, mais il n'y en a plus.
Oui, c'est pour ça.
Et donc, il aurait parlé au passé, il aurait dit... Il a été un grand acteur, mais il faut que justice passe. Et j'entends les témoignages des femmes. Tout ça passait très bien. Mais là, c'est comme s'il niait que Gérard Depardieu avait dégringolé.
Ouais. Samuel Blumen.
Il a eu peur, en fait, qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Parce que l'époque s'y prête aussi. Parce qu'il n'y a pas que des bons côtés dans notre époque. Or, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est... Bon, une fois que l'individu Gérard Depardieu est démasqué, il était temps qu'il le soit, qu'il soit pointé pour ses différentes avanies. Il n'est pas question de supprimer les films. Mmh. On va éviter cela quand même, on va éviter de s'infliger cela. Ça, que nous, on va aussi éviter de piétiner notre patrimoine.
Donc c'est ça qui se passe dans la tête du président?
Je dirais que c'est cela, mais il n'en reste pas moins que sa déclaration est pour le moins imprudente et lacunaire.
On sait comment a réagi l'entourage, notamment les communicants qui travaillent autour du président suite à cette émission de télévision. Bah,
surtout, la première qui a été inquiète, c'est Brigitte Macron. Mmh. En fait, elle voit que le président s'est aventuré sur un terrain qui n'est pas le sien habituellement. Et dès que l'émission est terminée, elle interroge ceux qui sont là. Est-ce qu'il a bien fait de dire ça? Mmh. Et elle l'a vu. Peut-être parce qu'elle est une femme, mais elle a vu tout de suite que ça n'allait pas. Et c'est vrai que c'est la phrase de trop.
Samuel Blumenfeld.
Je suis entièrement d'accord. Et ben, si vous voulez, nous avons le cas d'un président qui s'est exprimé sur un sujet qu'il ne maîtrisait pas assez, et qui s'est révélé à côté de la plaque, pas à la hauteur des enjeux.
Depardieu aujourd'hui, c'est qui? Il fait quoi? Il est où? Il vit comment?
Bah d'abord, c'est un homme très seul.
Et ça vous fait sourire
Non, mais parce que...
Ça franchement, nous a... Samuel Boulogne.
Je vais vous dire pourquoi ça vous fait...
Raphaël, je vous en prie.
Non, mais ça nous a frappés, mais depuis... On a bien vu que ça remontait à avant, d'ailleurs, le scandale des images de Corée du Nord. Mais c'est un homme de plus en plus seul. Il a fait le vide autour de lui. Il est trop énorme, trop excessif, trop insupportable. Donc, il est très seul, c'est vrai. Il ne tourne plus... Et probablement sait-il qu'il ne tournera plus. Or, c'est sa vie. Il a toujours vécu sous l'œil des caméras. Il a toujours vécu en jouant à être un autre. Donc là, évidemment, il est dans une difficulté immense. Donc, il voyage manifestement entre son hôtel particulier de la rue du Cherche-Midi, où il est de temps en temps, puisqu'on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il est allé à Dubaï, il va en Anjou, il a des vignobles et une propriété. Il va au Portugal. Donc, il essaye de voyager, mais c'est difficile dans son cas, car, encore une fois, son visage, son allure sont connus du monde entier. Il ne peut pas se balader incognito. En plus, vous voyez comme il est. Il ne passe pas inaperçu.
Même sur un scooter avec un casque.
Donc c'est une condamnation supplémentaire pour lui.
Ça vous faisait donc franchement sourire.
Ou alors, ça me faisait sourire. C'est pas au sens où je rigolais, mais en fait, je réalisais une chose. Beaucoup de stars de cinéma terminent seules. Et ce qui est frappant, c'est que c'est ça de cinéma, donc forte.
Pensez à Alain Delon, que vous connaissez très très bien.
Oui, si vous voulez, je comparais tout à l'heure les stars de cinéma, enfin certaines stars, à des monarques. Et ce qui me frappe, c'est que, comme des monarques, régulièrement, les stars de cinéma ont bâti leur royaume. C'est-à-dire qu'elles ont bâti leur château. Donc vous aviez Marlon Brando au 12900 Mulholland Drive, dans sa maison dans les collines d'Hollywood. Vous avez Alain Delon à Douchy. Vous aviez Jean-Paul Belmondo dans son île des Caraïbes. Je ne suis pas en train de dire que ces gens-là se comparent à la Depardieu. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais si vous voulez, chacun son histoire, absolument. Et vous avez Gérard Depardieu dans un hôtel particulier de la rue du Cherche-Midi. Et tout ça se termine presque systématiquement dans une incroyable solitude. Les gens les plus atourés. Vous aviez Jean Gabin aussi dans son haras de Normandie. Et c'est dingue et assez fascinant de constater que les gens les plus entourés terminent plus ou moins seuls, et dans le cas de Gérard Depardieu, totalement isolé, fondamentalement isolé.
Avec une dimension supplémentaire dans l'affaire Depardieu, qui est celle évidemment des agressions sur les femmes qui sont absolument inadmissibles. Le cinéma français est en train de vivre son MeToo. Au dernier César, Judith Godrèche a fait un discours évidemment extrêmement remarqué. Voilà, les langues se délient. Ça va donner quoi tout ça? Est-ce que le cinéma français va fondamentalement changer dans son comportement?
Déjà, pour Gérard Depardieu, il est sous le coup d'une mise en examen, et aussi de trois autres plaintes. Donc, déjà, la justice va devoir se prononcer. Est-ce qu'elle prononce un non-lieu? Est-ce qu'elle le renvoie en correctionnel? Est-ce qu'elle le renvoie plus gravement devant une juridiction criminelle? On ne sait pas non, encore. Mais ça va. Déjà, il va devoir. La justice va se prononcer sur lui. C'est vrai qu'on peut imaginer que sous le coup de ces scandales successifs, le milieu du cinéma va être moins tolérant à l'égard de ces transgressions qui sont inadmissibles. Et les femmes aujourd'hui parlent plus, s'expriment plus volontiers. Les producteurs aussi sont obligés de faire plus attention à la façon dont se passent les tournages.
Ouais.
Et donc il va y avoir quand même un changement.
Ça me semble inévitable. Inévitable. Même si nous ne parlons pas plus tout à fait de la même industrie du cinéma, quand même. je veux dire, nous parlons plutôt d'une industrie des images où les films se déclinent sur des plateformes, différents écrans. C'est une autre histoire. On va dire quand même qu'il y a certaines pratiques de l'ancien temps qui ne vont pas se reproduire, et c'est un bien.
Oui. La page 174, vous dites cette phrase lapidaire. Artistiquement, il est mort de son vivant, le laissant témoin de son effacement.
Oui, c'est terrible.
Mais quelle fin terrible.
Non, mais c'est vrai, c'est terrible. Et d'ailleurs, tout au long de cette enquête, on est passé par des sentiments très contradictoires à son égard. Parce que on regardait, évidemment, on re-regardait ces films, ces grands films, et on était émerveillés très souvent. Hein, il est formidable. Et puis, on entendait les témoignages et on poursuivait notre enquête. Et là, on était, au contraire, dans l'effroi de voir un tel monstre, une telle dégradation, une telle abjection, souvent. Donc, c'est vrai qu'on est passé par des sommets d'admiration et des gouffres de désolation à son égard.
Moi, je dirais qu'il y a une douleur chez Gérard Depardieu. On n'est pas là pour pleurnicher plus que ça, mais néanmoins, il s'agit d'englober toutes les facettes du personnage.
C'est ce qu'on essaye de faire.
Oui, oui. Et il y a une douleur. C'est-à-dire qu'en fait, Gérard Depardieu a deux décennies extraordinaires, quoi, 70-80, où il enchaîne les grands films et les chefs-d'œuvre. Et puis, au mi-temps des années 1990... Après avoir tourné Le Garçus, où la dernière fois qu'il tourne avec un grand metteur en scène, et puis pour lui, presque un père de substitution, c'est fini. Les choses s'arrêtent là. Et en fait, les choses s'arrêtent régulièrement en fait, dans une carrière d'artiste. Et Depardieu, qui n'est pas idiot, comprend que c'est fini. Donc il y a une douleur à constater que c'est fini. Là où les choses se compliquent dans son cas, c'est comme si... Une fois conscient que c'était terminé, que l'essentiel de sa carrière était faite, eh bien, il s'acharnait à piétiner tout ce qu'il avait bâti auparavant. C'est la tragédie de Depardieu.
Ce sera ma dernière question. Vous êtes tous les deux de grands enquêteurs, mais aussi une femme et un homme. Chaque enquête laisse une trace. Quelle trace celle-ci sur le cas Gérard Depardieu a laissé en vous? Et vous n'êtes absolument pas obligé de répondre, mais si vous le souhaitez, je vous pose la question. Raphaël Baquet.
Moi, je connaissais moins bien le milieu du cinéma que Samuel, mais en revanche, je connais les hommes de pouvoir. Ouais. Donc, et il est authentiquement un homme de pouvoir. Et j'ai bien vu chez lui pousser à l'excès ce que produit le pouvoir, comme tentation d'en abuser, comme phénomène de cour aussi autour des hommes de pouvoir, comme illusion sur soi-même. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire chez quelqu'un qui peut avoir du génie, et ça a été le cas comme acteur, eh bien il a été rattrapé par les mêmes illusions que n'importe quel homme qui a un pouvoir inconsidéré. Et il n'a pas su le faire fleurir et en faire quelque chose d'admirable. Il s'est effectivement autodétruit. Il a saboté tout ce qu'il avait fait de plus beau. Et ça, c'est très frappant. Et puis, il a laissé aussi sur le bord de chemin quelques victimes aussi de cette toute-puissance.
Et c'est important de le noter. Samuel Blumenfeld.
Moi, j'ai pris conscience... Une chose, en fait, c'était l'énorme avantage d'effectuer cette enquête avec une femme. Mmh. Une amie, mais aussi une femme. Mmh. C'est que j'étais pas assez sensible, et pourtant j'aurais dû l'être. Vous voyez, j'étais élevé par une femme seule, enfin, vous voyez, c'est pas mon truc. Vous voyez, c'est pas... Le machisme ne fait pas du tout partie de ma culture. Mais je n'avais pas pris assez la mesure de ce que peut être de la souffrance d'une femme sur un plateau de cinéma, mais aussi tout simplement dans la vie professionnelle et des abus qu'elles endurent régulièrement et de l'effet que peut produire un chêne, une armoire à glace comme Gérard Depardieu lorsqu'il vous tombe dessus, éructe, se répand en insultes et met ses mains. C'était pas anodin, c'était effectivement criminel. J'avais un problème de degré. Enquêter, ça sert aussi à cela, ça sert aussi à progresser dans sa vie, tout simplement, aussi.
Une affaire très française, pour comprendre vraiment le cas Depardieu dans toute sa monstruosité, dans tous les sens du terme, et dans toute sa complexité. C'est l'enquête inédite de Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous sur RTL dans Confidentiel. À très bientôt.
RTL. Confidentiel. Ophélie Meunier.